Chapitre 34. 400 ans d'histoire et des poussières. Zizo se réveilla seul sous sa tente de toile gelée. Il avait rêvé d'Alix. Il rêvait d'elle chaque nuit. Il errait dans un labyrinthe. Il l'entendait l'appeler, le supplier, crier, pleurer, mais jamais il ne la trouvait. À chaque pas, il pensait enfin se rapprocher, mais un nouveau mur les séparait. Il finissait toujours par essayer de les escalader, mais une fois au sommet, il se trouvait devant un vide abyssal, comme s'il avait atterri sur le rebord d'une étoile, et la voix d'Alix continuait de l'appeler dans l'infini de la galaxie. Alors il se réveillait. Quand il sortit de la tente, une odeur de thé à la châtaigne chatouilla ses narines. Akan et Rick s'étaient levés tôt pour aller chercher du bois et entretenaient le feu. Tout était froid et blanc dans la clairière. Des milliers de stalactites pendaient des branches de sapin autour d'eux, formant le cœur d'une immense cathédrale de verre. Sabi, entièrement enveloppée dans une épaisse couverture de laine, grelottait, ses longs cheveux clairs blanchis de givre.
« Dire qu'il y a 2 ans, gémit-elle, à la même époque, on était au chaud dans le palace de Jacques. Vous croyez qu'on peut au moins donner l'adresse de la clairière des partisans aux 7 privilégiés ?»
Zizo la coupa avant que la loligueur le parle de bain chaud, de croissant croustillant et de jus d'orange frais, et entreprit de tremper dans son thé une branche de céleri qu'Agnel et Manot avaient ramassée près de la cascade pétrifiée. « Valère et Constel sont déjà partis ?»«
Affirmatif !» confirma Sabi. « J'ai même l'impression qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Je sais pas ce que ma fraise des bois et sa petite copine manigance. »
En tous les cas, eut la force de plaisanter Zizo, s'ils parviennent à entrer dans le laboratoire Utopie, jure-moi de ne plus jamais l'appeler ma fraise des bois, ni par aucun autre nom de fruit. » Sabi, amusée, leva la main et jura. Le froid aussitôt raidit le bout de ses doigts.
« J'ai pensé à autre chose. »
fit Sabi en se recroquevillant à nouveau sous sa couverture.
« Il faut croire que mes neurones fonctionnent mieux quand ils sont gelés. Pourquoi ne rendrait-on pas une nouvelle visite à Lupa ?»
Zizo et Akan en restèrent la branche de céleri en l'air.
« J'ai l'habitude d'aller lui tirer les oreilles pour qu'elle vienne nous donner un coup de main, »
insista Sabi.
« Avec un succès inégal, je le reconnais, mais on dispose d'un argument de taille. » Le journal de son père, celui que Mordelia a volé et que, par conséquent, Lupa n'a jamais lu.
Pourquoi pas, approuva Zizo. Je viens avec toi. Alors on y va à 3, ajouta Akan. Rick, Agnel et Manot décidèrent de rester au camp près du feu. Ils devaient attendre le retour de Valère et Constel. Rick tenait aussi à préparer l'attaque des grands moulins de Paris. Ils fournirent à Zizo, Akan et Sabi les vêtements les plus chauds possibles, des vestes de tanneur, des écharpes de tisseur et des gants de bûcheron. Ils convinrent de Code à laisser aux différents refuges pour se retrouver, s'ils étaient obligés d'abandonner la clairière des partisans. Ils se séparèrent en formant, du bout de leurs doigts gelés, un rapide U de l'union sacrée.
« Seuls à jamais !»
crièrent-ils aux silhouettes qui disparaissaient dans la brume glaciale du matin.
« Plus jamais seul !»
répondit le brouillard. Agnel continua de fixer le ciel de craie, bien après que le trio fut parti. Un mauvais pressentiment le taraudait. Les températures hivernales paraissaient avoir gelé chaque être vivant incapable de se protéger, insectes, rongeurs ou oiseaux. Un paradis blanc et silencieux. Il attendait que quelque chose bouge, vibre, vive. Aux aguets. Après quelques minutes, à la grande stupéfaction de Rick et Manot, sa patience fut récompensée. Un oiseau gris perça la brume entre 2 grands sapins blancs. Un pigeon. Avant tous les autres, Agnel avait reconnu le courrier ailé de l'espion du palais. Les 8 gardes en faction devant l'observatoire de Paris avaient les yeux fatigués. La veillée du sanctuaire s'était terminée tard. La banque du Nouveau Monde avait offert à tous les compagnons de l'Empire un spectacle laser à couper le souffle. Après la traditionnelle cérémonie de procession des bougies et de lâcher de colombes, une succession de 29 tableaux, conçus par Isalis et son équipe de singes, avait été projetée dans le ciel. Des outils, des objets, des symboles représentant le travail de chaque corporation, râteaux et seaux, marteaux et bobines, paniers et farines. On avait pu admirer les illuminations jusqu'à 30 kilomètres de la ville. La sécurité avait été renforcée lors de la cérémonie. Plusieurs centaines de soldats avaient été déployés dans la ville pour surveiller les monuments, décrocher d'éventuels drapeaux arc-en-ciel et empêcher toute attaque des rebelles. Aucun incident n'avait pourtant été signalé et, pour la première fois lors d'une année paire, la veillée du sanctuaire s'était achevée dans le calme et la sérénité. Valère et Constel s'avancèrent d'un pas décidé.
« Halte !»
fit Pépin. L'ancien moineau de Mordelia commandait une patrouille postée devant la grille d'entrée de l'observatoire.
« L'observatoire de Paris est classé Z21, zone d'intérêt impérial, » précisa le colonel, « et son accès est strictement interdit. »
Constel agita son carnet et son stylo devant le nez de Pépin.
« Sauf pour le consul au progrès et à l'innovation impériale, je suppose ?»«
Évidemment, mais... »
Et tu n'as pas lu la feuille de chou de ce matin, ignorant ?
Il demanda à l'un des gardes de lui apporter le journal. Pépin ne lisait généralement que la rubrique météo de Coriolis et les histoires drôles de Donatello. Il ouvrit les feuilles vertes et resta pétrifié devant le titre qui s'affichait sur deux pages. Galien démis de ses fonctions de consul au progrès et à l'innovation impériale. Valère nommé consul par intérim. L'article évoquait un conflit personnel entre le médecin et l'empereur, puis dressait un long portrait élogieux de l'historien, illustré d'une photographie sur une demi-page.
« Ça ne fait pas partie de ton travail ?»
insista Constel.
« De te tenir au courant ?»«
Si, mais... »
« Galien a commis une faute grave. Le grand sœur est très en colère. Je n'en sais pas plus, mais Valère a été nommé en urgence. L'empereur a besoin de ses compétences historiques, et sa première mission est de visiter cet observatoire. Tu sais au moins pourquoi ce lieu est classé Z21 ?»«
Non, bafouilla Pépin. Je sais juste que je dois le surveiller. »«
Alors, surveille-le et laisse-nous passer. »
Pépin, devant l'autorité de Constel et l'agacement impatient de Valère, n'osa pas discuter. Il relut une dernière fois le long article de la feuille de chou, puis donna l'ordre d'ouvrir les grilles. Dès que Valère et Constel furent suffisamment engagés dans le jardin de l'observatoire, l'historien se tourna vers la journaliste.
« Bien joué, ma championne. Ta feuille de chou est plus vraie qu'une vraie. J'espère. J'en ai quand même écrit plus de 500 depuis que j'ai 16 ans. »
Constel connaissait par cœur les circuits de distribution du journal, les lieux et les heures précises où chaque exemplaire était déposé. Il leur avait suffi de remplacer la vraie feuille de chou, livrée comme chaque matin par des prémats coursiers devant l'observatoire, par celle que Constel avait rédigée pendant la nuit. Les gardes l'avaient trouvée à leur prise de poste.
« Et ce crétin de Pépin, ajouta Valère, ignore l'existence du laboratoire Utopie. » Agénor ne lui a évidemment rien dit.
Il poussa la porte de l'observatoire.
Dépêchons-nous. Pépin pourrait avoir des doutes et envoyer un de ses hommes au palais de l'Élysée pour vérifier.
Ils entrèrent, refermèrent la porte derrière eux et montèrent à l'étage. Alix et Zizo leur avaient décrit avec précision les lieux. Constel en connaissait toute l'histoire, mais elle resta tout de même bouche bée devant la beauté des objets exposés dans la pièce lambrissée du sol au plafond. Les sextants. Les télescopes, les astrolabes.
Le plus vieil observatoire du monde, l'informa Valère, construit il y a près de 400 ans. C'est ici que l'on a installé les premières lunettes pour observer les étoiles, la lunette d'Arago, le grand coudé, la...
Je croyais qu'il fallait se dépêcher,
le taquina Constel. Elle le fit taire en l'embrassant sur ses lèvres.
Tu me feras un cours plus tard, monsieur le professeur.
Elle jeta un nouveau regard sur les innombrables vitrines.
« Comment va-t-on trouver le moulin sublime ? C'est une vraie caverne d'Ali Baba sur plusieurs étages, d'après ce qu'Alix et Zizo ont raconté. Au rez-de-chaussée, ce musée, Au premier, le laboratoire Utopie, puis la coupole d'Arago. Valère ôta le lourd sac qu'il portait sur son dos.
Heureusement, j'ai gardé un petit souvenir de notre rencontre.
Quand les soldats ont attaqué le village des teinturiers ? S'étonna la journaliste.
Oui, désolé de n'avoir rien conservé de plus romantique.
Il attrapa une boîte de fer, l'ouvrit et en sortit un rat taupe nu. Le rongeur n'avait plus que trois pattes, une oreille déchirée et un œil crevé.
Non, il a pas mal morflé pendant la bataille. Il ne semblait plus trop obéir à son roi. C'est pour ça que je l'ai adopté, histoire de l'étudier. Ils vivent sous terre et sont complètement aveugles. Alors, tu te doutes qu'ils sont dotés de sacrés magnétorécepteurs. Même estropié, il va se diriger droit vers le moulin.
Dès que Valère posa le rat taupe par terre, la bête renifla le sol, puis pointa son museau et leva ses yeux blancs vers les instruments astronomiques exposés, comme s'il en comprenait le fonctionnement. Il hésita moins d'une seconde et, claudiquant, avança droit vers un sextant de cuivre posé sur un petit globe terrestre doré. Constel s'apprêtait à le suivre, mais Valère la retint par la manche.
« Attends, nous avons une autre mission avant !»
Il prit soin de ne pas s'approcher à moins de 10 mètres du sextant. Se souvenant des descriptions précises d'Alix et Zizo, il traversa la pièce en suivant le fil de laiton encastré dans les dalles, le fameux gnomon marquant la ligne imaginaire du méridien zéro, puis monta l'escalier de service, sans se préoccuper du sens interdit ni du panneau « Espace privé, ne pas entrer ». Il poussa la première porte du palier. Unité de thermodynamique ondulatoire et de prévention des interactions épidémiologiques.
Waouh !
Fit Constel derrière lui. Il découvrait enfin ce fameux laboratoire Utopie. Alors que Constel observait les longues rangées d'ordinateurs, la bibliothèque, les étagères de verre, Valère se dirigea à pas pressés vers l'armoire de fer face à lui. Il l'ouvrit et en sortit un épais dossier cartonné. Nouvelle évolution originelle. Il feuilleta rapidement les pages, commençant par la fin. Nom, Viera de Souza. Prénom, Valère. Profession du père, professeur en héraldique médiévale. Profession de la mère, chercheuse en paléographie antique. Fratrie, aucune. Contribution, 1 étoile. Potentiel, 1 étoile. Commentaire. Don à l'association faible. Intelligence de l'enfant supérieure. Atout principal du dossier, l'environnement culturel exceptionnel des parents, reconnus comme les meilleurs spécialistes de l'histoire ancienne. Pavillon préconisé, savant. Constel se tenait à nouveau derrière lui.
« Je suppose que ton père et ta mère ont insisté auprès de Marie-Lune pour que tu aies droit à quelques heures de cours supplémentaires en histoire. « J'aurais aimé connaître tes parents, » lui souffla-t-elle à l'oreille. « Dans le mausolée du musée de l'être humain, les miens ne m'ont laissé que des peluches ridicules, des bijoux en toc et un mot truffé de fautes d'orthographe.
Sur une carte postale de princesse ?»
J'aurais aimé connaître tes parents. Les miens devaient être sérieux et ennuyeux et les tiens, simples et affectueux. Et bêtes et ignorants, les tiens devaient être intelligents et brillants.
Valère prit son amoureuse dans ses bras.
Ils devaient être formidables, les tiens comme les miens.
Constel ne lui accorda qu'un bref câlin.
Allez, on ne traîne pas.
Elle referma le dossier et le rangea dans son sac à dos. Valère se retourna vers l'armoire de fer pour feuilleter les dossiers détaillés de chaque enfant du château. Il s'efforça d'en faire entrer le maximum dans son sac, choisissant en priorité ceux de ses amis les plus proches, Sabi, Alix, Braza, Osman, Lunella et Solario, Leonarda, Moebia.
« C'est tout ce qui mérite d'être sauvé, » fit-il.
« Maintenant... on va offrir au Troisième Empire un feu d'artifice digne d'un jour de veillée du sanctuaire d'une année paire. »
Ils redescendirent les marches sans monter jusqu'à la coupole d'Arago. Trop long, trop risqué.
En ce moment même, un soldat envoyé par Pépin était peut-être dans le palais impérial et se renseignait pour savoir si Valère était vraiment devenu le consul des savants, ou il avait récupéré une vraie feuille de chou dont la double page centrale ne parlait aucunement du remplacement de Galien par Valère, mais du fabuleux spectacle laser de la veillée du sanctuaire. L'historien sortit le sublimateur de sa poche. Le rataupe nu tentait vainement d'escalader le meuble d'acajou laqué sur lequel le sextant était posé. La boussole, entre les mains de Valère, se teinta d'un reflet jaune pâle.
10, 9.
Ils s'approchèrent du sextant. Le globe terrestre contenait une poudre d'or qu'on devinait en transparence entre les continents. Ils purent lire, à la base de l'instrument, « Méridien, un moulin pour que survivent les plus intelligents ».
« Jamais on ne sera comme eux, »
fit Constel en serrant la main de l'historien.
« Tu me le jures, jamais on ne sera comme ces monstrueux savants. Jamais on ne se prendra pour les plus intelligents. »«
Je te le jure. » »«
8, 7. » Valère posa le sublimateur à la base du globe. Une tempête se déclencha aussitôt. Des vagues d'or grossirent, puis s'assombrirent, avant que les continents de cuivre ne reposent plus que sur des océans de poussière grise. Un troisième moulin sublime venait d'être définitivement désactivé. Valère observa une dernière fois le gnomon, le télescope grégorien derrière sa vitrine, la sphère armillaire sur son socle de verre, l'astrolabe dans son bocal. Autant de pièces uniques.
« Ce sont 400 ans de science qui sont rassemblés ici, »
fit-il avec émotion.
D'histoires, de découvertes qui ont bouleversé notre connaissance du monde.
Et ce sont les ordinateurs, les processeurs, les disques durs, les fichiers qui ont permis de le détruire en moins de 3 jours. On ne peut plus reculer.
Valère acquiesça, à regret. Constel l'aida à sortir de son sac le dispositif que leur avait fourni Rick. Un vrai matériel de résistant clandestin, qui pesait moins de 5 kilos et ne prenait pas davantage de place qu'un gros dictionnaire.
« On le règle sur 1 minute ?»
Valère confirma. 15 secondes plus tard, ils sortaient de l'observatoire. Ils mirent 15 secondes supplémentaires pour traverser le jardin, 10 pour que Pépin leur ouvre les grilles et 15 encore pour s'éloigner. Des drapeaux arc-en-ciel flottaient sur la place aux lions, au-dessus de l'entrée des catacombes et sur chaque autre bâtiment. Il en poussait de partout, plantés par des compagnons anonymes sans que les soldats aient le temps de les arracher. L'historien et la journaliste continuèrent de marcher à pas rapides avant de s'arrêter boulevard Raspail. Ils fixèrent le dôme translucide de la coupole d'Arago. Comment un monument aussi élégant avait-il pu abriter les cerveaux les plus criminels de l'histoire de la science? 5 dernières secondes. Le dôme de la coupole d'Arago explosa, tel un crâne qui crève, libérant une gerbe de fils électriques, d'instruments électroniques, de milliards de données soudainement calcinées. Les murs du premier et du second étage résistèrent encore quelques instants. Les pierres de taille centenaire tremblèrent, puis finirent par céder. L'observatoire s'effondra sur lui-même, comme un animal trop massif que ses pattes ne peuvent plus porter. Quand le nuage de poussière se dissipa, il ne resta plus de lui qu'un amas de roches blanches, hérissées de télescopes et de tubes cylindriques d'or et de cuivre. Le laboratoire Utopie venait d'être intégralement détruit.